Alain.
Non, c'est pas...
Ah, pardon, c'est Olivier, pardon. Alors, je suis gâteux, oui. C'est mon neveu Olivier. C'est mon filleul, pardon. Non, je suis gâteux, je sais pas ce qui m'arrive. Toi, alors, tu vas bien, c'est
plaisir.
Vous connaissez le compte de Pierre Gorlet? Quel président qui perd la chose, d'ailleurs. Hello, hello. The princess of the moon. And the prince of the moon. By the way.
Bah oui.
C'est quand on est allé sur la lune.
I'm happy to see you. And of course, I have to.
Of course. No, to Mr. Arizoli, Clément Hotel. How are you?
Wow. Oh, look how divine.
No.
Ah, est-ce que c'est joli?
Regarde cette autre robe.
Non, j'aime pas. Ça, c'est sublime.
Être Monsieur Giscard d'Estaing, les amis.
Du Gotha, où nous plongeons dans l'aristocratie et la bourgeoisie française. On en parle dans un instant avec Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Comment la bourgeoisie défend ses espaces, c'est un tout petit peu la lutte des classes à l'envers. Michel et Monique Pinson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur, ça fait très longtemps que vous travaillez sur les élites. C'est votre combien-tième livre?
13e, 14e.
Voilà, 13, même vous, vous ne le savez pas. Voilà, vous ne comptez plus. Alors là, vous attaquez un peu à la bourgeoisie, les ghettos du Gotha. Donc, c'est une plongée un peu dans les modes de vie, dans les appartements, dans les serres, dans les maisons de campagne de cette aristocratie ou cette bourgeoisie, parce qu'on finit un petit peu par les confondre. Pourquoi avoir eu envie de vous plonger dans cet univers-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau?
Ça doit plutôt être là. Bonjour, je suis Monique Pinson-Charlot et on a rendez-vous avec Olivier Drouhan. Merci. Bonjour madame, vous êtes l'assistante de monsieur Drouhan? C'est vous que j'ai eu au téléphone?
Nous nous sommes parlé, effectivement. Bonjour monsieur. Monsieur Drouhan vous
attend. Merci. Bonjour monsieur.
Voilà.
Je suis contente de vous connaître.
Écoutez, moi aussi.
Merci de nous accorder cet entretien. Moi, je ne pourrais pas avoir un autre siège.
Vous êtes trop basse.
Excusez-moi, je suis trop basse. Comme je suis petite, il faut absolument
regarder. Est-ce que vous voudriez une chaise?
Oui, une chaise, ça sera très bien.
Voilà.
On est tous les deux sociologues, directeurs de recherche au CNRS. Et on fait actuellement une recherche qui sera publiée aux éditions du Seuil sur la défense des belles choses et surtout des beaux espaces, hein, aussi bien à la campagne qu'à la ville. Et donc, comme vous, vous êtes un militant multidimensionnel, que vous avez la responsabilité de nombreuses associations, notamment les Amis de Versailles, là où on est, le patrimoine, la sauvegarde de l'art français. Donc on s'est dit que vous étiez un homme intéressant pour nous. Et sur le Botamondin, puisque nous on travaille beaucoup avec le Botamondin, vous êtes Olivier Drouhan.
Je suis Olivier Drouhan Chabot et je porte le titre familial de vicomte de Rohan, qui est le fils c'est le deuxième fils du duc.
D'accord.
Donc comme c'est le plus vieux titre de la famille, ça remonte quand même au XIe siècle, nous y tenons. Je n'ai pas l'intention de laisser oublier cette vieille tradition, donc je le porte.
C'est une grande chance d'avoir des racines, d'avoir avec ses racines un patrimoine dont vous vous préoccupez, alors que par exemple on voit dans certaines banlieues, on fait sauter l'habitat.
Monsieur, nous avons tous des racines qui sont les mêmes, puisque nous descendons tous d'Adam et Ève. Seulement, il y en a qui le savent et d'autres qui ne le savent pas. Et le rôle de ceux qui le savent, c'est d'enseigner à ceux qui ne le savent pas qu'ils en ont aussi. Et je veux dire, c'est un des rôles extrêmement intéressants, justement, de cette vie associative au service du patrimoine, c'est que c'est l'occasion d'attirer l'attention sur le fait que tout le monde a des racines, qu'il appartient de les chercher et d'en être fier. Enfin, je veux dire qu'il n'y en a pas de honteuses. Elles sont toutes intéressantes, à des degrés divers. Et moi qui vous cause, je descends aussi bien de je ne sais pas quel de Saint-Louis que de Louvois. C'est pas le même monde. Hein. Oui, Colbert, c'est pas du tout le même monde. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est certain que quand on a les repères que vous venez de dire, on a un sentiment d'appartenance et même de propriété. Il est certain que quand je me promène en France, je me sens propriétaire de la France. En ce sens que je suis parfaitement conscient, effectivement, que depuis 1000 ans, les gens ont travaillé ici et là pour la faire ce qu'elle est. Mais ce processus que je viens de dire, n'importe quel Français peut l'avoir.
Ah, dis donc, pour un premier entretien, je trouve que c'est vraiment réussi.
Oui, c'était très bien, parce que j'ai bien apprécié quand il a dit qu'il était propriétaire de la France. Alors je me suis dit, on est locataire, donc on va lui devoir un loyer.
Ah, ça va complètement dans notre sens. Les grands bourgeois dans les beaux espaces qui se vivent comme les gardiens du patrimoine, c'est super.
Oui, ils défendent leurs intérêts particuliers, leur vieillir, et en même temps, c'est l'intérêt général, c'est ça qui est fabuleux.
Ben, ils jouent sur du velours, c'est irréprochable, sur le plan moral, sur le plan politique.
Ils ont toujours le beau rôle.
Moi, je trouve que c'est une entrée en matière pour notre bouquin. Super, on est tout de suite dans l'ambiance.
Jacqueline, vous êtes accueillie par les caméras.
Oh là là, déjà, je suis piégée, de toute façon, épouvantable. Piégée, hein. Bon, alors, où est-ce que je pose mes affaires?
Bon, le pépin, je m'en charge.
Alors, on est piégé comme ça, dès le premier instant.
Vous enlevez votre manteau et je l'accroche. C'est du léopard, ça?
Ouais.
Oui. Pauvre bête. Non.
Ce n'est pas moi qui l'ai tué.
Bon, heureusement.
Alors, parlez-vous. Comment
bonjour.
Allez-vous?
Ça va bien?
Très bien, et vous?
Je suis ravie de vous voir.
Bonsoir, Jacqueline. Comment allez-vous?
Bonjour.
Bonsoir, Jacqueline.
Venez, comment ça va?
Ça va bien. Et vous aussi?
Ça va.
Ça va. Bon.
Mais qu'est-ce qui vous a amené à ce nouveau sujet? Quelle idée?
Quelle idée? C'est les éditions du Seuil qui nous ont... comme on est en négociation tout le temps avec les éditeurs. Donc là, notre livre « Dans les beaux quartiers » qu'on a fait il y a 20 ans était totalement épuisé. Donc ils nous ont dit « Mais vous devriez... le réactualiser, puis faire quelque chose d'un peu plus pétillant. »
C'était le livre qui était épuisé ou les sujets étaient épuisés?
Vous êtes toujours dans des infrastructures qui demandent une certaine aisance, non?
Oui, c'est-à-dire qu'on travaille... Ce qu'on va essayer de faire, c'est une analyse des différents espaces dans lesquels la haute société vit, se rencontre, etc. Et c'est très, très divers.
Et Denis,
comment allez-vous?
Vous vous souvenez de moi?
Bien sûr.
Ah, ben, je suis contente. Mon mari, Michel.
Bonsoir. Comment allez-vous?
Bonjour. On se connaît. Jacqueline de Beaumont.
Oui, absolument.
Mais d'ici.
Mais non, je me souviens très bien de vous, de vos livres, de... On s'est vu plusieurs fois, d'ailleurs. Vous êtes venu m'interviewer sur la rue de Montaigne.
Oui.
Un verre de Porto ou...
Je viens un petit peu de Porto, j'arrive du Portugal.
Ah.
L'art de la conversation qui a presque disparu. Ça, c'était vrai. Les femmes.
C'était très important.
Mais oui.
Moi, j'ai connu ça, comme toi.
Je me souviens, les jugements d'âme, quand elle a des jugements sévères, elle n'a pas de conversation. Il y avait deux jugements sévères.
Oui, mais c'est
elle
vrai.
N'a pas de conversation et elle ne sait pas se faire servir. C'est-à-dire qu'elle n'était pas... patronne de sa PME, qui était une maison.
Voir de la conversation, c'est raconter des...
C'est de renvoyer la balle.
C'est de renvoyer la balle.
Oui, non, et puis de mettre les gens en valeur.
L'art de la conversation, savoir se faire servir.
Mettre en valeur les gens, donc savoir poser la bonne question, remettre une conversation en
route,
c'est ça.
Voilà.
Ouais. Mais les salons qui ont disparu totalement dans les années 50-60.
C'est Jacqueline. Au Cercle des Lumières, les salons étaient tenus par des femmes.
Bien sûr.
Madame,
oui, exactement. Les autres. Oui, oui. Mais en Allemagne aussi.
Mais parce que les hommes, en principe, non, comme en ils fait, étaient censés aller à la guerre...
Les femmes, en rentrant dans les bureaux, sont sorties de la société.
Ah, c'est intéressant comme formule. En entrant dans les bureaux, elles sont sorties de la société.
La bonne société.
C'est une très bonne
formule. Certaine société, ouais. D'une certaine société.
Non, il n'y a plus aujourd'hui ce qu'on appelait la société.
Non.
Qui avait d'ailleurs des tas de côtés conventionnels, embêtants, etc. Le bal de la préfecture dans une ville de province, c'était un coup de marbre monumental.
Ah, moi, j'adorais ça.
Ah, mais
le bal de la préfecture avant, on voulait y aller.
C'était bien sûr.
Je regrette que la République ne fasse plus de bal à l'Élysée. Ça s'est fait jusqu'à la guerre.
Comme le bal de l'ambassade de France à Rome, parce qu'il y a Hercule Farnèse dans l'escalier, et l'Hercule qui est tout nu. Particulièrement bien sculpté. Et donc, les jeunes filles voyaient pour la première fois, quand elles étaient invitées pour
un
corbal,
à
quoi ressemble un homme.
Enfin, au 19e siècle, si vous voulez aller au Père-Lachaise, des dames, des jeunes personnes de toutes sortes, qui allaient voir un gisant sculpté par Dalou,
ah oui,
ou quelqu'un comme ça, Victor Noir, qui était
usé.
Allongé, et dont on voyait le sexe dans un état assez intéressant, sous le pantalon. Et on ne comprend pas pourquoi le sculpteur a fait ça pour un gisant. Mais alors, ça avait un succès fou.
Optimiste, oui,
ça avait un succès fou.
Jacqueline, à force d'être caressé, il est usé.
Je vais vous dire, c'est quand ils sont en bronze qu'on les use. Mais en réalité, on ne les use pas.
Jacqueline, nous allons rougir.
Il y a eu un passage très intéressant, pour moi, petite femme en tout cas, sur les rapports hommes-femmes dans ce milieu. Et à un moment, Philippe Denis a dit « Les femmes, en entrant dans les bureaux, sont sorties de la société. » C'est-à-dire qu'à force d'être dans cet entre-soi, pour eux, la société, leur société, devient la société.
Oui,
dans une espèce de dénégation du reste de la société extraordinaire.
Il n'y a qu'une société qui compte, c'est la leur.
Voilà.
Bon, désolée. Ça va bien ?
Oui,
bien. Bah, je vous accueillir avec ce mauvais temps.
Ah oui, c'est tout à fait responsable.
Surtout en moto, ça devait être...
Ça devait pas être... Non, ça s'est très bien passé. Je n'ai pas d'embauche.
Donc, vous travaillez pour Stratégie, entre autres.
Entre autres, oui. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez la photo ici?
Vous allez un peu me raconter en quelques mots ce que vous faites. Je crois que vous êtes chercheur, sociologue, c'est ça ?
Sociologue, oui. Et vous travaillez sur la haute société française et surtout française depuis 20 ans.
Oh, oui, on s'est mis ensemble à travailler à 86.
Moi, je photographie des costards-cravates toute la journée. Je me dis, là, je vois des gens qui sont chez eux, qui sont mariés, etc. J'aimerais bien faire un
truc. Il y a qui s'aime ?
Un instant. J'ai un peu peur de tomber dans le ridicule, mais j'aime bien ce nain de jardin. Lui, il peut parler aussi, ça se fait l'antithèse de votre sujet aussi. Donc, tous les deux, même sous un parapluie dehors, avec le nain de jardin pas
loin.
Ben,
comme ça.
Ça pourrait m'aller. Enfin bon, je me demande si c'est pas débile quand même, mais.
Madame. Faites presque un demi-tour, voilà. Et puis peut-être, voilà, le parapluie assez haut. Oui, bon. Et avec l'autre main, plutôt. Est-ce que c'est pas très tellement si vieux ? Parce que c'est une sorte de belle parce que... Voilà, parce que c'est une sorte de haut comme un monsieur. C'est un peu de notre côté. Ah, bah oui. Et madame, même, je pense que la tête, je l'ai pas posée.
Pourquoi pas, voyons.
Et si vous te regardez,
non. Je ne sais pas, non. Monsieur, ne me regardez pas, regardez en face de vous.
Bon, on a ça, mais on va reprendre celui pour faire une version ailleurs, parce que je suis pas tout à fait sûr de moi, d'accord ?
Oh, vous êtes, vous êtes formidable.
Je suis formidable, c'est vrai.
Oui.
Je suis d'accord avec vous, mais on va quand même faire on va prendre ça pour le coup de,
ah,
de
oui,
faire
autre chose. Il n'y a pas de problème.
Je me demande si c'est pas... C'est bête. Il y a aussi un autre truc que je me demande, c'est de travailler en couple. C'est-à-dire que. Voilà, c'est une difficulté, non c'est,
oh là là.
Justement, la vie professionnelle est une respiration dans la vie du couple.
Alors on n'a pas cette respiration.
Ouais. Et alors, vous foutez pas sur la gueule
De temps en temps, quoi.
Ouais, de temps en temps, par contre.
Non, on s'est construit, notre couple s'est construit comme ça, puisqu'on s'est connus sur les bancs de la fac.
On est partis tous les deux, on s'est mariés en catastrophe, on est partis tous les deux enseigner 2 ans dans le désert du Maroc. Bon, mais là, on était quand même 2 ans assez l'un sur l'autre. Donc là, ça a solidifié le couple. Après, on a fait notre maîtrise ensemble.
Enfin, vous arrêtez ensemble, oui. C'est prévu.
D'accord, d'accord.
31 août 2007, ça va arriver assez vite maintenant. Non, non, moi je suis une sexygénaire plus jeune que Michel, mais je pars le même jour que lui. Voilà, une petite carte de nous deux. Et puis ça nous ferait plaisir de pouvoir vous offrir Sociologie de Paris, parce que je me dis que vous déambulez avec votre moto dans Paris, que vous êtes sûrement parisien.
Absolument.
Hein, vous avez un look un peu de bobo.
Ah oui, j'allais vous demander. D'ailleurs, je savais que moi, dans ce que j'étais, ouais. Je suis bobo.
Et donc, je me suis dit que là, vous retrouveriez...
Non, bobo secteur art-culture, quoi.
Mais justement, il est parfait.
Oui, tout à fait.
Mais je pense que, oui, peut-être que je suis...
Pas secteur communication, entreprise.
Il y a quand même la barbe de la veille. Non, il est parfait, le pull au vert noir.
Mais... Il faut quand même un peu de fric pour être bobo. Non, moi, j'en ai pas beaucoup, donc je pense.
Vous n'allez pas nous tendre la main.
Non, ça va, je
vous ai déjà. Vous avez le temps d'en gagner.
D'accord. Je suis un futur bobo. Je suis pas jeune, mais.
Un peu genre danseuse espagnole. Comment ça te paraît?
Très bien.
Enfin, tu verras sur la bête. Ah ben c'est pas mal. Qu'est-ce que tu dis?
C'est très bien, c'est bon, très bien. Ça
va,
ça
va. Alors
pour aller ensemble.
Donc tu fais ton double nœud.
Milliardaire, ça ?
Donc, c'est ça. Alors, c'est extraordinaire. L'argent va toujours à l'argent. Ils sont milliardaires. Alors, courance, là. Ils sont milliardaires. Ils donnent de l'argent pour le château de Versailles aux amis de Versailles. Là, les amis de Versailles, tu te rappelles d'Olivier Dron ?
Oui. Non.
Et en plus, on les invite de château en château à des cocktails et des dîners. Alors tu vas me dire, ils donnent de l'argent, c'est des mécènes, mais enfin, ils s'y retrouvent quand même. Est-ce que ma robe est bien mise? Tu peux regarder de dos.
Ça va.
On peut marcher là. Pour moi, c'est plus doux.
Non.
Hein?
C'est pas mal. Un peu grand, quoi. Mais...
Je vais pas encore dire à Valentine que ce serait mon rêve.
Deux.
De me baigner dans la pièce d'eau devant le château. Qui s'y baigne l'été.
Bonsoir.
Vous n'avez pas vu arriver,
excusez-moi.
Mais écoutez,
vous
êtes belle.
Comment ça va? Bonsoir, monsieur.
Oui, je sais.
Vous êtes?
Voilà.
On ne s'est pas encore rencontré. Vous avez rencontré mes parents et ma
sœur
Valentine.
Voilà.
Voilà. Alors voilà, notre petite fête qui va avoir lieu. Et alors, voilà, on enlève le rose bonbon. Ça, on peut les mettre dehors. Hein.
Parce que le décorateur s'était un peu laissé aller
sur le rose.
Le rose bonbon qui n'allait pas du tout. Hein.
D'accord.
Voilà.
Allô, ma vieille.
Bonjour, monsieur.
Monsieur et madame. Qui vont faire qui font un essai de philosophie sur.
Sur la défense des beaux espaces.
Voilà. Et qui sont déjà. Monsieur et madame Pinson-Charlot, pardon, j'ai commencé, j'ai pas fini ma phrase. Ils ont déjà écrit des livres de sociologie sur certains groupes ethniques protégés. Et tout à l'heure, on a eu un déjeuner et ça a été atroce. Bonsoir, la Maury, il a plu, mais sans arrêt.
Ah, vous étiez au château de Grousset ?
Non, on était très gentiment. Madame Pinault nous a invités.
Ah, la mort-mère.
Oui, c'était absolument sensationnel. On était 50. On a déjeuné dans l'orangerie. Et les Américains étaient évidemment...
Enchantés.
Enchantés. Les gens qui viennent ce soir, il n'y a personne qui n'a pas donné 50 000 dollars pour... par ménage.
Pour Versailles.
Oui.
Pour,
Mais donc, c'est un sacré travail, en fait. C'est...
Mais c'est amusant.
Merci,
c'est amusant.
Oui.
Vous avez vu maman? Vous l'avez seulement
mais
eu
non,
au téléphone.
Non, j'ai eu au téléphone. Ça...
Maman, ah, qui est là.
Que vous êtes belle, formidable. Ah,
bonjour, okay, madame. Voilà, vous vous souvenez de papa?
Bonjour, monsieur.
J'ai pas entendu qu'il y avait...
Est-ce que vous allez bien?
Est-ce que vous vous souvenez de M. Madame Pinson-Charlot?
Oui. Je vous avais appelé monsieur le marquis de Quinette de Richemont, non, dans notre premier livre. Vous vous en souvenez?
J'ai pas fait la traduction.
Magnifique. Voilà, je vais vous emmener à la cuisine.
Bonjour, madame, bonjour,
monsieur. Voilà, venez. On va être ravis de vous voir en cuisine. Oh, on dirait que vous êtes bouddhiste. C'est formidable. Oh, Louis.
Si on prenait un verre, Anne-Marie.
Oui, je vais
Alors, où est-ce qu'on se, on vous suit?
Ah non, allez, vous connaissez le chemin.
Quel âge avez-vous maintenant?
Moi? Je vous dis pas.
Ah bon, c'est extraordinaire.
Vous dites pas, je viens de virer quelque chose.
Oui, je comprends, mais c'est extraordinaire.
Vraiment sur la terrasse?
Oui, c'est fait beau sur la terrasse. Alors, voyez-vous le point de vue là-haut? Un autre château, vous le voyez?
Oui.
Devinez, vous le voyez.
C'est là, notre jambe qui l'a fabriqué pour les enfants.
D'accord,
c'est un château, château sur roulette, tout petit. Alors il l'a mis là, je trouve que c'est assez drôle.
Le mari de Valentine.
Oui, Marcus, qui est un artiste.
Alors, artiste.
Ça lui a pris très longtemps. Il a fait le toit, il y a les bacs à fleurs, il y a un perron, il y a tout ce qu'il faut.
Mon château, sur roulette.
C'est pour partir en vacances, c'est superbe.
Voilà. Mon mobilhome à moi. Si jamais les choses devenaient étouffantes ici, je peux dégager au premier signal. Et un point de vue... Vous voyez, c'est joli d'ici, c'est pas ridicule. Vas-y.
Allez-y. Non, c'est vrai.
Mais vous avez fait quoi? Vous avez fait un tour? Vous avez
picolé pendant une heure? Vous avez faire pique-niquer quelques-uns?
Pourquoi pas?
Non, non. On a un verre, mais c'est...
C'est la figuration?
C'est la figuration, oui.
Pourquoi?
Pour avoir une contenance.
Pourquoi des gens du CNRS n'ont pas le droit de boire en public?
Jamais pendant le travail.
Quelle foutaise.
Oui, c'est vrai. C'est un peu ça. Ceci dit, les voilà.
Hello, hello. How was the trip?
How was the trip?
I hope. Hello, hello. How was the trip?
Not long.
Hello, hello. How did you do? Very good, Serge de Gagné.
Serge de Gagné. My uncle Paul.
I'm so welcome to see you.
See you again, sir.
Hello, hello. How was the trip?
Very nice.
Good exercise. I didn't.
That was you had a
good boy. You're a solid wolf there.
You did well.
You did well. Hello again.
Hello again.
See you.
Thank you.
Hello. So you made it.
I made it. Thank you.
Hello. Good evening. Yeah. Yeah.
D'arriver, il y a un orage extraordinaire.
C'est
pas si bien ici, mais
on a 100 route, de... on a 200 parapluies. Pas plus. Non, mais tout est suspendu, tout va bien.
Tout va bien.
Nous sommes dans une bulle, tout est parfait. Papa, va boire pour te restaurer.
Merci. Vous étiez à Fleury tout à l'heure?
Non, non.
Ben, je vais vous dire ça, comment dire, ce genre de fête, bien entendu, ça a pour but d'aborder des sous. Mais pour moi, ça a quand même un but qui n'est pas secondaire, qui est primaire, c'est que tous ces gens qui ont de la fortune, ça leur donne le goût de l'art français. Parce que cet art de vivre, là, il est complètement perdu aux États-Unis. Enfin, il n'existe que chez très peu de gens. Donc, lorsque je vois des gens qui auraient les moyens de l'avoir, même chez eux, qui se disent, tiens, ça vaudrait peut-être le coup d'avoir du mobilier français, d'arranger ça, comme ça, c'est très important.
Before there was a huge dining room, now there's a kitchen there. My mother cut one half of it away to do the kitchen.
Yes.
And there was one very chic table when you were 48.
Oh,
but
nice.
A bit gloomy when you were two, you know.
Yes.
Hey folks, what about dinner? Oui? What about dinner? Hello, dearie. Follow this group for dinner?
Oh,
or this way. Faut pousser les gens. Emmenez-moi des gens. Oui. Yeah, I know, mais il faut que les gens voilà. Voilà. Nobody wants to follow me, I'm all alone.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas pensé?
Non, j'ai dit qu'on apporte les parapluies.
Ah oui.
De la maison, parce que je ne suis pas sûre. Qu'on enlève ces bus absolument dégoûtants, affreux. Je crois qu'ils reculent jusqu'au fond de la forêt, là. Je vais essayer de négocier ça.
Puis vous arrivez à marcher sur les pavés du château de Provence, là, avec vos petits talons. De façon naturelle.
Alors, je vais négocier avec les chauffeurs.
Alors, on va voir comment vous arrivez à négocier.
1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est trop monstrueux. Je veux qu'ils aillent sous les arbres.
Moi, à mon avis, vous n'y arriverez pas.
Bon, on va quand même essayer.
On va voir. On va voir.
Bonsoir, messieurs. Je vais vous demander une grande faveur, s'il vous plaît. Si vous pouvez avoir la gentillesse de reculer sous les arbres. Un petit peu. Vous voyez ?
Sur la pelouse ?
Non, l'allée remonte sous les arbres, il y a de la pelouse, effectivement.
Ouais, on remonte sur la pelouse, alors.
Oui, pas de problème, mais dans la même direction, OK ? Pour pas qu'on voit les autobus, la première chose devant la maison, quoi. Il n'y a plus décoratif, vous voyez ce que je veux dire ?
Excusez-nous.
Mais non, je vous en prie.
On vous a demandé de prendre les clients devant.
Tout à fait, on vous appellera tout à l'heure, d'accord ?
Alors, quel est le programme de demain, Marie ?
Ah, demain, alors demain, petit déjeuner... 11h, au foyer de l'Opéra, visite privée.
Oh, et samedi, c'est le
Samedi, rien jusqu'au soir.
Oui.
Et puis alors, rendez-vous quand même 7h30 au château, visite privée, notre verre de champagne à la main, sauf dans la galerie des glaces.
Tu as vu Anne-Marie de Ganay, comme elle est à l'aise? Elle est à Versailles comme si elle était chez elle.
C'est un grand appartement.
Elle dirait vraiment sa maison.
D'accord, ouais, ok. Alors j'allais causer en anglais.
Bonjour.
How do we know which way do the calls are about?
Well, my dear, you follow the crowd.
Follow everybody.
À droite là-bas.
Okay. You look so beautiful.
Dis donc, regardez mon parapluie.
Royal.
C'est bien ce que tu prends, que tu
fais. Mais là, ça a beaucoup de succès, il y a beaucoup de nouveaux. Ouais, c'est vrai?
ça avance plutôt doucement. Mais bon, j'essaye là maintenant de décrire la sociabilité à Courance, à Versailles, qui était fabuleuse parce que c'était enjoué, c'était heureux, l'entre-soi, tout ça.
Et puis, est-ce que t'es arrivé à rédiger le passage sur l'argent, tu sais, montrer que ça coûte très cher et que finalement, les mécènes apportent de l'argent, mais qu'en même temps, on leur donne des...
Ils sont bien récompensés.
J'aime bien dire, il pleut toujours où c'est mouillé. Ouais.
Non, mais j'ai commencé un petit peu un truc là-dessus, mais c'est sur l'idée de légitimité.
Oui,
bien sûr, ils donnent beaucoup financièrement, mais ils reçoivent énormément parce que ça les justifie d'être ce qu'ils sont.
Et surtout, ils ont des plaques même à Versailles.
Ouais.
Ils sont immortalisés, ouais. L'immortalité symbolique.
Oui, il faut remarquer que c'est une belle jambe, mais bon...
mais ils sont dans le cumul.
Quand tu as les moyens de te le payer, c'est pas mal.
Ils sont dans le cumul, toujours.
Tu as vu, Michel ?
Ils nous ont envoyé le numéro de stratégie dans lequel il y a la photo. Qu'est-ce que tu en penses ?
Ouais, elle est pas mal, cette photo. Lui qui doutait de tout, finalement, il a réussi. Ouais.
En tout cas, j'espère que demain, on n'aura pas un temps de chien à la chasse à cour. Mais en tout cas, de toute façon, moi, je suis contente de revoir Monique de Rothschild.
Oui, j'ai pensé, ce serait bien qu'on en profite pour creuser la question des adjudications.
Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Cette histoire de privatisation de la forêt deux fois par semaine, même si les suiveurs peuvent profiter du spectacle.
Il est sourd. J'ai l'air faire l'argent. Enfin, je sais pas moi, écoutez bien. Bon, vous dites, là, quand vous poussez. Bah, ben, là, quand vous poussez. On n'a qu'à vous pousser, pourquoi vous prenez là? On n'a qu'à monter sur le goudron. Ben, on n'a pas acheté la forêt ici.
Là, bonjour.
Madame.
Alors nous essayons de chasser à court, qui est censé donner un bon spectacle à certaines personnes. Le spectacle, c'est pas de voir un cerf, c'est de voir les chiens chasser. J'invite ceux qui viennent ici pour juste voir un cerf à aller dans un zoo où ils pourront s'asseoir sur une chaise et les voir tranquillement. Voilà, merci.
J'ai arrêté, moi, personnellement, en 2003. Voilà. Ça, il y a 3 ans. Enfin, j'ai pris la voiture.
D'accord.
J'ai passé mon foie à mon fils. Voilà. Vas-tu te taire? Tu me fatigues. Tu te retiras tel.
Et vous avez toujours chassé en forêt domaniale ou,
ah, oui.
Ou votre papa avait des forêts privées?
Ah, non.
Non,
ben, non, non. Et on a chassé. Bah, le foie de concul a été ça. Non, mais a été toujours notre coin de prédilection.
Mm-hmm. Donc vous pouvez chasser.
Dans 15 000 hectares.
Sur toute la forêt.
Absolument. Mm. Non, mais ça fait partie de l'adjudication. C'est moi d'ailleurs qui suis adjudicataire de la forêt de concul sur 15 000 hectares. Merci. Ouais, hop. Ça, c'est lui, c'est toujours comme ça. Il est penché à droite avec la main gauche qui se promène. Il y a 30 ans que c'est lui. Les chiens sont où?
Les chiens sont passés, madame.
Bonjour.
Donc avec 3 biches et un cerf d'icor.
Bien.
Comment ? Où ça ?
Là-haut, je mets au-dessus.
Alors, attends. Ça va, ça va peut-être. Tu la mets en silence, en silence, en silence.
Il est où ? Je vais aller chercher.
Essayer d'arrêter les chiens.
Exactement. Exactement. Je leur conseille de faire vite.
Oui, parce que comme c'est parti.
Ils vont se débrouiller, j'imagine.
Et
c'est aussi, vous savez, livrer les biches et puis reculer.
Oui, oui, oui.
C'est une bonne défense.
C'est une bonne défense. Oui.
Tout, mais pas moi. C'est la force. Non, mais c'est vrai. C'est, ah,
ouais,
c'est...
Ouais, c'est un peu comme ça dans la.
Oui, mais la c'est particulier au cervidé.
Cervidé.
Ah oui. J'ai jamais vu des cerfs autrement que particulièrement égoïstes et personnels.
Ouais. Envoyer les autres au charbon, voilà, à leur place.
Voit, exactement, exactement. Et d'une façon systématique. Enfin, bon. Bien. Il coupe ça, les gars. Ça, les gars. Hop. Allez,
colle. Allez, hop. Allez, hop. Oh, j'adore cette dame. C'est pas là, ma cabane au Canada.
C'est toi qui as les clés ?
Alors, Monique de Rothschild, qu'est-ce que j'ai... Oui, je me suis questionnée parce que j'aime beaucoup cette femme. Et je pense que quand on fait ce type d'enquête, c'est vrai que cette empathie formidable qui nous lie, parce que Monique de Rothschild, ça fait depuis 1990, donc 1990, ça fait 16 ans qu'on travaille avec elle. Et donc, j'étais fatiguée, tellement je trouve que c'est dur à gérer sans arrêt ces gens qui me sont sympathiques, profondément sympathiques. C'est pas toujours le cas, hein. Mais là, oui. Et puis, après, le boulot qu'on fait de sociologue, d'analyse des déterminismes sociaux, de dénonciation, sans qu'on soit du tout dans le ton dénonciateur, mais sans
c'est-à-dire
arrêt.
C'est-à-dire que il est clair qu'en travaillant en milieu populaire, on se sent beaucoup plus en phase.
Mmh.
Compte tenu de ce qu'on pense de fonctionnement social en général, on est beaucoup plus en phase, c'est clair. Parce que on vient voir comment, quelles sont les difficultés, les problèmes, les injustices, les inégalités. Et puis on espère que le travail pourra aider à. Alors que là, on est des fauchetons, quoi. Il n'y a pas de problème.
Bonsoir, Monique.
On va directement.
Pourquoi laisser cette tombe droite ?
Bon, ça sera oui, c'est comme au château.
Après, c'est... Ben, vous êtes quand même plutôt dans un château, même un peu croulant, mais il est encore là. Et bien vivant.
Vous disiez que vous avez vécu à l'échelle du monde, enfin dans plusieurs pays. Alors, l'Allemagne, bien sûr, les États-Unis.
Oui, j'ai...
Et puis ?
Puis, on a pris de Washington. Saint-Barth était seulement 4 heures en avion. C'était un peu maison de campagne. Mais on était à Saint-Barth à une époque où c'était une île simple.
Il y avait déjà Rockefeller qui était installé ?
Oui, il y a 2 ou 3...
Rothschild ?
Oui, je les connais. Je connais Edmond de Rothschild et donc Rockefeller et l'autre qui a la plus belle gueule sont tous partis. Et maintenant, c'est devenu un produit de masse.
À Saint-Barth, à Hagstadt et dans quelques endroits similaires.
Pas du tout le même milieu. Hein.
Est-ce que ce ne sont pas les mêmes qu'on retrouve un peu toujours des gens
dans
les
îles, rien du tout.
Michel, alors. Pour répondre à votre question, au début, ce sont les mêmes.
Le numéro 4.
Au début, ce sont des gens qui cherchent la vie simple. Par exemple, j'étais amie avec la femme de Rockefeller. Elle mangeait que les produits de son jardin. Donc, c'est la recherche de la simplicité et de la pureté.
Ce que vous dites, c'est que lorsqu'on a dépassé un certain niveau dans le luxe, ce qui est intéressant...
Que c'était insuffisant. On retourne vers une simplicité naturelle, si possible.
Oui, mais... Moi, je...
C'est peut-être pas si vrai.
Non, mais c'est à l'échelle humaine, c'est pas pour tout le monde. Pour nous, c'est d'avoir les pieds dans une eau propre, dans un espace peut-être comme ici, mais c'est pas le luxe ici. C'est assez
sombre. L'espace est un luxe, j'en suis
conscient. Oui, mais l'eau aussi.
Ah oui. Ça va. Vous avez quand même toujours vécu dans de beaux endroits, Gabriel.
Oui, mais simplement.
Enfin, relativement, simplement.
Simplement.
T'as quand même toujours eu l'eau courante.
J'ai toujours eu le courage de vivre avec des vues. Non, mais... J'ai eu de la chance.
Je suis prête à commencer par la Bretagne, parce qu'il n'y a que là que j'ai pu sauver l'environnement. En ce sens que nous avions 3 km de bordure de mer, ce qui était un site magnifique que tous les promoteurs voulaient avoir. Mais moi, je n'ai pas voulu des promoteurs, parce que je trouve qu'il y a des choses plus importantes que l'argent, et c'est dommage de démolir un bel endroit. Alors nous l'avons vendu au Conservatoire du Littoral. Pour qu'il soit conservé à tout jamais dans son intégrité. Ça ne change rien, simplement, comme de toute façon, on ne pouvait pas empêcher les gens d'y aller, parce que le maire avait décidé que le littoral était d'usage public, donc on ne peut pas le garder pour nous. Alors maintenant, c'est pareil, j'y vais comme avant, ils y vont comme avant, et je ne paye plus l'entretien des chemins. Voilà. Mais les gens sont même tellement difficiles que quand ma fille a fait une piscine avec une couverture dessus qui n'était pas très jolie, les gens d'en face ont rouspété en disant « Votre couverture de piscine, c'était pas joli vu d'en face. » On avait l'air de dire « Écoutez, qu'est-ce qu'on dirait, nous, et tous ces bicans bâtis un peu partout.
» Vous nous aviez aussi, une autre fois, lors d'une de nos rencontres, parlé de deux châteaux qui appartenaient à votre famille, dont l'un, dans le Bordelais, a été vendu à François Pinault.
Ben, nous avons eu Château Latour, oui. Oui, qu'on avait depuis le XVIIe siècle, et qui a été vendu aux Anglais. Et après ça, je crois que c'est maintenant à M. Pinault.
Mais c'était Lord Canduie, quelque chose comme ça, non? Vous nous avez dit, vous avez dit Lord Canduie, quelque chose.
Pardon?
Lord Canduie.
Michel ne parle pas bien l'anglais.
Non, Lord Cowdray, je crois.
Ouais, bon, voilà.
Je ne sais pas si c'était vendu à Lord Cowdray. Oui, et, donc, et maintenant, c'est M. Pinault qui l'a acheté. M. Pinault et M. Arnaud, ils achètent tous les biens de ma famille. M. Pinault a acheté Château Latour. Monsieur Arnaud a acheté le château de Saint-Rémy à Rambouillet, qui était aussi une propriété de famille.
Et alors, ça vous
les paraît... nouvelles fortunes achètent les biens des anciens riches.
Et en tant que châtelain, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne comme châtelain
Ah, bon, j'en sais rien, moi.
Vous ne savez pas?
J'en sais rien. J'aimerais bien aller y voir. Alors, je crois que sa femme, ça ne lui plaisait pas. Et elle a dit, ce serait très bien pour emmener les enfants goûter le dimanche. Hmm. Ça revient bien cher, le croissant beurre. Hein?
Mais putain, on va être comme des coqs en pâte.
Je suis passé.
Oh. Ah, c'est la première fois de ma vie que je dormirais dans un lit à baldaquin aussi.
Là, vous avez la chambre en pire. Vous
avez... Parce que chaque chambre a son style.
Oui, chaque chambre a son château assez différent. Vous avez votre verre ici.
Très bien.
Regarde. C'est extraordinaire. Je me sens intimidée. Oh, c'est... Je me sens petite.
Mais non. Allez, voilà. Il
n'y
a pas de raison,
vous croyez?
Oh, mais il
n'y
a pas de raison, hein?
Ouais. Ah, puis c'est chaleureux.
Oui, c'est très chaud. Merci beaucoup.
Voilà, madame.
Merci bien.
Monsieur de Carriolet devrait arriver à quelle heure? Après, je ne sais pas.
Pas avant 10 heures, je pense.
Ah oui. Ah oui, non, voilà, on ne l'attendra pas pour dîner.
Non, ben.
On profitera de lui.
Voilà, monsieur. Madame.
Comme au château, on va savoir quoi se dire. Ouais. Est-ce que c'est un tableau d'Oudry?
Non. Ah. Ça va peut-être être un peu haut, vous allez voir.
Oh non, vous êtes adorable. Vraiment, c'est ça.
Essayez, vous allez voir.
Oh, mais regardez.
Merveilleux.
Ah oui, c'est super.
Non, ce sont des Snyders. C'est un grand pâte animalier.
D'accord.
Mais pas au delà.
Non, madame.
Oh, une bonne soupe, ça.
Mais c'est quand même...
Champignons, crème de champignons.
Non, ici, il faut marcher beaucoup pour le service.
Oui, oui. Oh, c'est une question d'habitude.
Oui.
Ça se fait bien.
Oui, c'est très sportif. Quand même, c'est pas très intime.
C'est ça.
Hein? Ouais.
Mmh.
Je devrais dormir dans chaque chambre du château pour repérer justement les défauts de chaque chambre. Oui. Mais comme je suis très casanier, je dors dans ma chambre.
Ce qui est une habitude assez courante.
Oui, mais non, mais ici, j'ai le choix. Oui. Je pourrais effectivement me dire, tiens, ce soir, je vais plutôt aller dans la chambre Georges Sand. Mais en fait, je suis casanier. D'ailleurs, quand j'étais gamin, je dormais dans ma chambre tout simplement parce que j'avais peur d'aller dans les autres chambres, parce que j'avais peur des fantômes. Moi, je crois beaucoup au système tout de même de la propriété privée d'un monument historique. C'est-à-dire, c'était mes grands-parents, c'était mes parents, c'est ma femme et moi, ça sera un enfant. Et il y a toujours, à la génération qui a la responsabilité du monument, il y a du sang qui coule dans les veines. Et donc, il y a quelqu'un qui vraiment s'implique. Donc aujourd'hui, les gens qui viennent ici sont non pas des visiteurs, ce sont des hôtes que je nourris, que j'héberge, et qui, en quelque sorte, sont chez eux, chez moi, le temps de leur passage. Et donc tout est mis en commun.
Ce qui fait qu'ils ne sont pas du tout dans une atmosphère d'hôtel, ça n'a strictement rien à voir. Ce sont des espaces où vous-même vivez. Lorsque vos hôtes ne sont pas là.
Un château de famille, c'est un château de famille. Il est habité par l'esprit de famille, même par les esprits. Un château de famille, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. C'est un voyage dans le temps parce qu'on remonte le temps, on vit avec les ancêtres qui sont là, on vit avec des meubles qui sont des signatures des temps passés, et en même temps de l'espace, parce que justement, un château, c'est de l'espace. C'est, là encore, c'est une idée de ma femme. Et je vous parlais de comment on vend une idée. Ma femme m'a dit, ça sera très bien vis-à-vis de tes clients, d'avoir une disco. Finalement, réaménager une cave qui ne servait plus à rien en disco, Alors, et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, pour fidéliser les gamins, quand ils sont devenus ados, vous n'avez pas mieux. Bien évidemment, ma fille a retenu déjà le jour de l'an ici. Elle a invité 30 copains et les parents sont tolérés.
Peu comme dans le feuilleton Star Trek, je ne sais pas si vous regardez tout ça. Voilà donc la mezzanine, hein. On passe un étage, et puis voilà, on va déboucher, regardez.
Ah oui, c'est autre chose.
Voilà, on a vraiment l'impression d'un voyage dans le temps.
J'adore cette perspective.
Je trouve ça très bien. Ça fait combien de siècles ?
18e, 21e, on va dire, ça fait deux.
Oui, enfin, ça dépend si on compte les intervalles ou les...
Oui, c'est ça.
C'est splendide.
Voilà.
C'est splendide.
Bon, c'est ce qu'on appelle l'étage noble, vous voyez, donc c'est la bonne perspective. Vous êtes à la bonne
c'est encore terre. Un peu plus haut.
Ouais. Regardez.
Même comme ça, c'est très beau.
Voilà. Et voilà le. Alors, ça, des livres comme ça, tiens, me l'ont ouvert à la page, vous voyez. Des livres comme ça, on en a. au temple. Donc c'est 1919, celui-là. Mais on a... Alors... Et ça, c'était un livre de comptabilité.
L'aristocratie d'Empire.
La bourgeoisie, l'aristocratie d'Empire. Non, c'était beaucoup, beaucoup l'aristocratie d'Empire, parce que tout ça très lié.
On a beaucoup travaillé avec cette famille aussi.
Voilà. Les familles intellectuelles.
À monsieur Saint-Ger, américain. Mm-hmm. Lui, on peut le citer, c'est devenu une marque.
C'est vrai.
Vous voyez? Tout est répertorié et nous avons même des photos. Venez voir, ça c'est magique.
Là, vous pouvez c'est... authentifier les...
pour le catalogue. Authentifier. Parce qu'il n'y a pas toujours l'écran d'origine. Vous avez toutes les pièces fabriquées par Chaumet ont été photographiées. Alors, les dessins, on en a des centaines de milliers, hein, mais les photos, on a des milliers de photos. Et depuis l'invention de la photo, on a des photos qui sont du 19e siècle.
Oh, écoutez, moi j'étais particulièrement émue par le cahier.
C'est étonnant.
Ah oui, ça vraiment, ça m'a fait plaisir de le voir, parce que je savais que ça existait, mais c'est assez fort, parce que en fait, ce sont des familles où tout s'inscrit dans le temps, et ça, c'est une forme de célébration, c'est-à-dire que sans arrêt, vous êtes reconnu, c'est pas comme quelqu'un d'important, mais comme quelqu'un.
Ouais.
Vous existez,
oui.
Voilà.
Enfin, la famille existe, on en retrouve toujours des traces dans différents endroits.
Mais dans la vie, on est tous là de passage sur cette terre. Qu'est-ce qui peut vous faire vraiment vibrer? C'est la reconnaissance. Et là, ce sont des familles qui sont reconnues dans un palace, qui arrivent chez vous, qui sont reconnues. C'est exceptionnel. Je pense que c'est quand même ça le... Les vrais privilèges, le luxe.
Vous savez que moi, il m'arrive quand je suis en bas dans le magasin et que je vois des gens devant la vitrine, comme ça. J'aime bien l'expression lèche-vitrine, est presque physique, hein, à ce moment-là. Il m'arrive d'ouvrir la porte et de leur dire, je vous en prie, rentrez. Et il faut presque les pousser.
Ils n'osent pas.
Hein, les gens n'osent pas. Les gens n'osent pas. Et s'ils savaient? Parce qu'on le vit bien, vous l'avez bien vécu.
Le problème, c'est parce qu'on intériorise. On intériorise la position qu'on occupe dans la société depuis sa naissance, dans telle ou telle famille. Et puis après, ça devient comme une seconde nature. Hein, c'est mon habitus, c'est ma psychologie. Et ça, vous pouvez être le plus adorable des hommes. Rien n'y fera, je n'oserais pas ouvrir la porte de chez Chaumet. Mais enfin, là, ce soir, elle a été ouverte et vous nous avez accordé un entretien magnifique. C'était bien, mais c'est pas évident.
Il faut se faire violence, presque. C'est une douce violence.
Oui, oui, oui. Non, c'est pas une douce violence. Je pense que c'est une forte violence. C'est dans la tête, c'est en soi et c'est les violences les plus incroyables. C'est extraordinaire parce que nous, on est sociologues. On vit dans un laboratoire plein de sociologues. Ben, je vais vous faire hurler, mais nos grands bourgeois et nos aristocrates, ils sont très, très sociologues. Ils n'ont pas besoin de nous pour définir les frontières de leur groupe.
C'est eux qui définissent.
C'est eux.
Alors, pour prolonger, quelquefois, on nous a reproché d'être fascinés par cet univers. Mais cet univers est fascinant, parce que c'est le pouvoir. Bon. Alors, le problème, ce n'est pas de l'admettre. Le problème, c'est de savoir comment ça marche, comment ça fonctionne et comment on peut changer. Comment on peut faire que l'égalité des chances à l'école, c'est du pipeau. Mais absolu. Nous, on est bien placés pour le savoir. Donc, et je pense que nos travaux peuvent permettre, par exemple, de déculpabiliser des gens qui ne réussissent pas dans la vie. Bon, quand ils voient, si on leur donne des biographies de gens de cet univers, ils se disent, oui, bon, d'accord, lui, il a fait une belle carrière de ceci, de cela. Il a été ambassadeur de France et ministre des Affaires étrangères. Bon, mais quand même,
moi, je ne suis pas parti exactement du même point. Et ça, c'est des choses qui sont tellement... On le ressent tellement fort quand on est dans cet univers que l'histoire du mérite, par exemple, une société qui fonctionne sur l'idéologie du mérite, pour nous, c'est du pipeau aussi. C'est pas vrai. C'est pas, on ne fonctionne pas sur le mérite. On fonctionne d'abord sur l'héritage. Ça, c'est clair. Alors, l'héritage, c'est pas seulement l'argent, ils s'en foutent beaucoup. Si c'était que l'argent, ça se réglerait. C'est parce qu'il y a aussi la culture, le social et le symbolique.
Il y a le domaine à reprendre, on voit que ça sort de la famille, on va épouser la fille du domaine d'à côté, comme ça.
C'est plus facile, on peut peut-être pas.
Je cherche Margot de Nicolaï.
Oui, c'est moi.
Ah bonjour, je suis Monique Pinson-Charlot.
Bonjour madame.
Ah, je suis contente de vous rencontrer.
Moi aussi.
Ça va bien?
Contente, très bien.
Je suis fière de venir. Vous...
C'est gentil de venir.
Oui, ça me fait vraiment plaisir de découvrir votre travail.
Oui, oui. On a un sujet, on nous donne un sujet à traiter. On a 15 minutes pour se préparer. Et puis, on passe devant un jury. Donc là, la salle est fermée. Personne n'a le droit de venir, excepté le jury. Et on doit parler pendant 20 minutes sur ce sujet. Et je pense qu'il y aura un dialogue aussi sur le sujet avec le jury. Et puis après, il y a une dégustation également devant ce jury. Dégustation à l'aveugle ou un autre vin. Il y a 3 vins, je crois. Et donc là, c'est dégustation orale. Le nez n'est pas d'une très grande complexité, mais il est tout à fait propre et on a une belle harmonie de fruits, d'épices, d'arômes un peu plus empyromatiques aussi. Donc la bouche, on a une persistance assez importante en début de bouche. Une bonne longueur en bouche. Au niveau de la structure, c'est un vin structuré. Mais par exemple, pour un concours comme ça, on sait très bien ce que les gens peuvent penser. Mmh. Et déjà, on arrive avec un nom, on arrive avec une certaine attitude sociale, comme vous pouvez appeler, je ne sais pas. Et,
nous sociologues, on dit excis corporel.
Voilà.
Vous étiez.
Peut-être.
Vous étiez très, très à l'aise, très calme, très sereine. Mmh. Incroyablement sereine et.
Mais du coup, voilà, on peut se dire, ah, elle, tout de suite, elle est dans un beau cadre, elle a un réseau derrière elle, elle s'en sortira sans le titre. Ils peuvent très bien penser des choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, je pense que ça fait partie de moi, mais ce n'est pas tout à fait moi. Et donc, c'est quelque chose que je mets de côté pour ne pas trop me valoriser ou me dévaloriser en même temps. Mm-hmm. Je préfère que ça soit plus moi... tel que je suis, plutôt que moi avec quelque chose.
C'est ça. Donc, dans un entretien sociologique, ce sera vous dans votre construction globale.
Oui. Hein,
vous retournez très régulièrement au LUD ou...
Oui, je rentre au LUD à peu près une à deux fois par mois. Et là, je rentre ce week-end pour le week-end des jardiniers. Donc, c'est ce grand week-end qu'a créé maman il y a déjà une dizaine d'années.
Bonjour madame,
ça c'est
Margot.
Bonjour, Margot.
Alors c'est toi qui vas galoper en Mongolie de temps en temps.
De temps en temps, exactement. Plus depuis quelques années, mais nous sommes allés.
Le feu du printemps, le feu du jeu.
J'ai vu Isabelle passer déjà. Programme.
Bon, à tout à l'heure.
Oui. L'inauguration commence dans le grenier à blé. Et puis au château. Et puis déjeuner à 13h.
Vous êtes charmante en tableau.
Merci, monsieur.
C'est un des salles.
C'est la pause déjeuner.
Je remercie également le Conseil régional des Pays de Loire qui nous aide depuis de nombreuses années. Et puis je voudrais aussi avoir la présence de la deuxième dame de France qui nous a fait l'honneur d'assister au palmarès du prix redouté aujourd'hui, Madame Fillon. Alors aujourd'hui, c'est promis, on ne vous parlera pas de politique. On vous parlera de beaux livres.
C'est bien.
Elle est extraordinaire.
Elle est extraordinaire. Elle Maman, est extraordinaire. C'est pour moi un exemple de vie.
Elle est extraordinaire.
Extraordinaire. Elle fait ça si bien, si simplement.
Et puis là, n'étant bon, pas c'est... sur place, j'admire ouais. encore plus. Ouais. C'est ta dernière année, toi, Dauphine.
Peut-être. J'ai peut-être encore une année.
Tu travailles
mais...
là maintenant, tu vas travailler
Non, j'ai peut-être encore une année de master. Et j'ai envie de travailler un peu dans la banque pour avoir une petite expérience. Voilà. Et après, je continue dans le vin de toute façon.
Tu veux faire 2 ans de banque d'abord?
Non, peut-être seulement une année.
Ah,
ça dépend, on verra après des opportunités.
Oui, mais juste peut-être une année. Dauphine, évidemment, tu peux faire banque en sortant de Dauphine.
Ouais. C'est juste pour une banque qui investit dans le vin, c'est ce que je cherche. Comme les Rothschild, comme le Crédit Foncier, le Crédit Agricole.
Il est directeur général de Crédit Agricole Asset Management.
Vous me faites un beau cadeau, là.
Mais écoute, ça me fait plaisir de pouvoir te faire un beau cadeau.
Voilà. Je cherche un stage dans la banque.
Ah ben, c'est parfait, parce que c'est lui qui est administrateur de tous les vignobles détenus par le Crédit Agricole.
Ah non, mais là, vous me faites un superbe cadeau.
Bon, et tu lui dis, donc, de la part de Gaëlle de Pontbriand, que Gaëlle de Pontbriand, que tu étais un grand ami de tes parents, et tu as chaudement recommandé de... Non, mais attends, ça, c'est comme on dit maintenant... Moi, maintenant, enfin, je peux dire ça, c'est un ami de 40 ans.
Sympa cette journée, c'est cool ce temps. Oui, un peu d'ombre, il a fait chaud.
Vous êtes très bien là. Madame de Nair.
Donc, t'insinues que je suis une potiche.
J'allais dire potiche.
C'est gentil, Jean. Mais tu sais que j'apporte beaucoup plus que ça.
Oui.
Il y a toute une préparation derrière que tu sous-estimes.
On sent, non, mais on sent que c'est très étudié. Je veux dire, c'est pas,
mais je suis très impliquée.
C'est pas un rôle fortuit. Elle est où ta chambre?
Là-haut.
Au
milieu, c'est la moitié de la fenêtre du milieu au deuxième. Et à côté, c'est Billy. Voilà. Tu dors ici ce soir ou pas?
Je sais pas.
Au CNRS, ils n'ont toujours pas compris qu'on a besoin de relire à haute voix notre manuscrit pour mieux le corriger.
Ah ouais, c'est parce que eux, ils n'ont pas expérimenté l'écriture à deux.
Bon, en fait, de toute façon, ça nous fait sortir au lieu de nous engueuler devant nos crayons. Et puis un chien qui...
Ouais, forte chance. Je suis un... L'entrée de service est une inscription cynique de l'inégalité.
Parfait.
Elle est une forme architecturale... spécifique aux immeubles bourgeois dont les habitants légitimes semblent ainsi proclamer leur regret de ne pouvoir pousser à son terme la purification sociale. Déjà presque parfaite, réalisée grâce à la sécurité.
Non. Ah non,
on arrête la sociale.
Ouais, ça me paraît très bien.
Ouais, c'est bien.
Les châtelains recourent à la fois à la diversité des formes d'ouverture et à un travail symbolique sur sa signification sociale. L'ouverture aux étrangers, à ceux qui ne font pas partie de la famille ni du même monde, est un sacrilège ambigu. En même temps qu'il est profanation, il est témoignage d'intérêt et d'admiration pour un passé fastueux. C'est l'une des forces des dominants d'avancer sous le masque de l'individualisme et du mérite personnel tout en pratiquant dans la discrétion, le collectivisme, le souci de l'héritage et de la transmission des avantages acquis. On est toujours dans un système, une classe, un filet, une toile d'araignée où tout se tient. Chaque partie, chaque particule renvoie au tout. C'est parfait, hein, je suis contente, Jacqueline. J'ai bien fait de venir vous voir, ça va beaucoup mieux.
Ben oui, beaucoup. Vous savez, les textes sont faits pour être corrigés. C'est bien connu. Personne n'écrit d'un premier jet. Bon, alors.
Alors, donc, le grand-père de mon mari avait épousé Mademoiselle de Trévenoc. Lorsque ma belle-mère est arrivée dans cette propriété en 1923, elle a eu l'impression d'être dans un pays étranger dont elle ne parlait pas la langue, le breton. Les domestiques ne parlaient pas.
C'était pas les domestiques, mais c'était le personnel.
Le personnel.
Oui, parce que dire les domestiques, d'accord. On a l'air de... Ça passe mal. Ça,
aujourd'hui, c'est vrai que c'est un mot qui a...
Je l'ai soumis, le texte, à ma soubrette qui est intelligente, comme tout, les balines. Je dis, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que je mets? Est-ce que c'est pas mieux le personnel? Oui, oui, c'est mieux.
Cette propriété appartient aujourd'hui à mes petits-fils qui y vont beaucoup. Ils ont mis une piscine... car la jeunesse n'aime pas aller se baigner dans la mer froide.
Je pense que c'est bien, mais ça, ils n'auront pas tellement envie qu'on dise ça.
Ils n'auront pas envie qu'on dise ça.
Non, je crois pas. Bon. Qu'ils l'entretienne avec amour.
Qu'ils l'entretienne avec amour.
On peut me dire ça, qu'ils l'entretienne avec amour.
Avec passion.
Qu'ils l'entretienne avec passion.
Oui, parce qu'ils ont créé un jardin japonais.
Oui, qu'ils l'entretienne avec passion. Ayant même créé un jardin japonais.
C'est parfait.
Voilà. Ayant même ajouté un jardin japonais. Mais c'est pas peine de parler des piscines. On parle déjà de la piscine de ma fille qui embête les gens d'en face, vous savez.
Vous avez raison.
Alors ça fait deux piscines. Et oh là là, c'est Richard, toute leur piscine. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parfait.
C'est parfait.
C'est parfait. Hein? Elle est bien, ma cuisine.
Ah oui, elle est super.
C'est une cuisine pour les patrons.
Et vous ne faites plus vos salons littéraires du dimanche après-midi?
J'en ai pas fait beaucoup cette année parce que j'ai eu beaucoup de travail. Mais je vais recommencer, je vous réinviterai.
Alors qu'est-ce que vous avez eu comme travail? C'est vos travaux d'écriture?
Eh bien, j'ai refait 25 nouveaux poèmes pour la nouvelle édition de mes poèmes avec la Chaire des Dieux, avec la préface de Jean-Marie Roy.
Est-ce que ça serait possible que vous nous lisiez un de vos poèmes ou que moi je le lise?
Quand?
Ben là, parce que c'est tellement beau, moi j'aime tellement ce que vous faites.
Et le premier poème est « Ô toi mon cœur et mes entrailles, pourquoi faut-il que je m'en aille quand tous mes pas marchaient vers toi dans la ferveur de mon émoi? Pourquoi faut-il que l'âme folle vers un ailleurs toujours s'envole, vers ce pays de l'inconnu qui vous réclame seul et nu? Lorsqu'en tes bras sonnera l'heure d'abandonner tous les bonheurs, pourquoi un cœur et des entrailles s'il faut un jour que l'on s'en aille? » Vous aimez?
Oui. Oui.
Bon, je vous réponds juste pour dire que... Oui, allô? Allô? Oui, écoute, je suis en pleine réunion, là. Oui, non, mais j'en ai pour un bout de temps. Je te rappelle dans 2 heures, ça va? Ça marche. À tout à l'heure. Enfin, je c'est peut-être une longue réunion, nous, mais... Alors,
non, le... En tout cas, merci de...
Le... Où est-ce qu'on était?
Alors non, on était sur les stratégies de condescendance.
Qu'est-ce que c'est que la stratégie de condescendance?
Alors, la stratégie de condescendance, alors, ben, vous êtes adorable, vous me recevez à Canisy, vous êtes élégant, vous êtes très très gentil avec moi, extrêmement courtois, vous me mettez totalement à l'aise. Et moi, c'est aussi ça une stratégie de condescendance, c'est-à-dire que dans la politesse extrême, mais qui je suis gênée pour le dire, parce que ça m'habite aussi, j'ai une fille extrêmement polie, il y a une façon de nier la distance sociale tout en affirmant la distance sociale. Le châtelain n'est pas fier, c'est ce que disent les villageois, et c'est la meilleure façon pour être respecté des villageois et pour qu'ils vivent la distance tout en l'acceptant.
Alors, je comprends ce que vous dites encore une fois, mais je considère que je ne suis jamais condescendant.
D'accord. Mais ça, je vous l'accorde. Je vous ai pris comme exemple, j'ai eu tort.
Non, mais... parce que c'est contraire, ça serait contraire à ma manière d'être. Bon. Et par conséquent, c'est pourquoi cette phrase me gêne un petit peu dans ce contexte-là. D'accord. Parce que dans les gens que vous avez vus, il y a certainement des gens qui sont condescendants. Et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais là, il y a une espèce de... On les met tous dans le même sac.
On est tout à fait OK.
On est d'accord.
Il n'y a pas de problème.
Alors, je vous laisse parler.
Et donc, je suis tout à fait... je suis tout à fait d'accord pour supprimer cette...
Ce que je vous propose, c'est simplement une rédaction moins heurtante pour nous.
Je suis tout à fait d'accord.
À la limite, je crois qu'on va pas... Moi, je vous dis ce qui me choque.
Voilà,
et puis après, c'est vous qui réécrivez en fonction de mes observations.
Parfait. Bah, écoutez, je vais rejoindre mon château à moi.
Et votre prince charmant.
Et mon châtelain.
Et votre châtelain.
Et je vous remercie beaucoup.
Mais
c'est super. Et puis surtout d'avoir permis qu'on puisse rendre notre texte à temps.
La prochaine fois, on fera moins long. Hein.
Position du sol. Sol, accueil.
Bonjour, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot.
Désolée.
On a rendez-vous avec Patrick Rotman.
Et Anne, ça se tournait.
J'avais plus de sacs de chez Fauchon, alors je vais les mettre dans un sac d'Arty, enfin bon.
Oui, c'est vrai.
Ça ne sera juste pas de la qualité.
Voilà la chose.
Là, tu as une garantie d'un an, quand même.
Oh, tu commences à faire la tête.
On sort de la relecture. Xème relecture. On en a jusque-là. On trouve qu'on se répète sans arrêt, évidemment, puisqu'on relit toujours la même chose.
C'est
vrai.
Non, c'est un beau bébé. Franchement, c'est un beau bébé qu'on vous a fait. On a pris beaucoup de plaisir, si je puis dire, à le faire, Michel et moi, ce bébé.
Ouais.
On a fait de très, très beaux entretiens. Vous verrez, il y a pas mal de surprises. Bien entendu, comme dans tout texte, surtout vous connaissant Anne et toi, vous allez avoir plein de critiques et de choses à reprendre.
Un projet ?
Non, ça, c'est la représentant. Ça, c'est ce qui est...
Quand je vois le titre, ça...
Ah oui, alors les représentants auront cette image sur un écran, donc
alors,
soyez préparés, parce que ça va être ça pour demain.
Ah, c'est pas mal, ouais. Mais on peut pas faire ça.
Ah, c'est le titre. Là, ça fait marron moche, hein, mais
c'est un doré.
Faites pas attention à l'illustration qui est nulle.
L'illustration,
c'est pas ça du tout. Non, mais
ma réticence est par rapport à nos enquêtés.
Bien sûr, oui.
C'est raide comme titre. Hein.
C'est fait pour quoi ? C'est un titre et une couverture. Tu vas dans un libraire et à la seconde, tu comprends de quoi te parle le livre. Et ça s'appelle Espace du...
Espace du pouvoir sur l'espace.
Qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? Qu'est-ce que l'espace ? Blablabla. Non, là, il faut que ça ghetto de régie. De toute façon, c'est la prérogative de l'éditeur.
Je sais bien, c'est dans le contrat d'édition.
Voilà. Ouais. De toute façon, de recourir à ces arguments massus, franchement, c'est le titre par rapport au livre, c'est exactement ça.
Bon. On a jusqu'à demain ?
Vous verrez les représentants demain comment ils vont réagir.
Voilà.
Bah écoute, on va se reconvertir après dans les ghettos de la banlieue
Nord-Est, bah, parce que si il est au Nord-Est, on n'ira plus.
Franchement, c'est plus banal.
Oui. Toutes les petites filles, elles ne sont pas parfaites. Parfaites. C'est quand même chouette, cette châtaignière.
Oui, ça change, c'est bien. Ouais.
On n'était encore jamais venu en cette saison avec toutes ces fleurs.
C'est sûr qu'on n'avait pas ce genre de week-end quand on enquêtait dans les HLM.
Ah, c'est spectaculaire. Hein. Alors, moi, j'ai souvenir que c'était par là, d'habitude. Qu'elle... Ah, mais voilà, il y a... Non, mais surtout que juste le soleil se couche.
Voilà, Ahmed.
Monsieur, non, le jardinier en chef.
Chef, mon grand chef. Mon cher Ahmed, voilà. Voilà, moi j'aime. Mon... Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez? Ah, oui, hein. C'est mon... Nous faisons équipe.
Ben oui, c'est ça qui est formidable.
Mais vraiment, oui, équipe, hein. Le plus grand estime l'un pour l'autre.
Voilà. Mais ça, c'est ça qui est difficile, de, quand on, d'arriver à avoir de la reconnaissance mutuelle.
Ah oui, oui, oui.
L'estime pour le travail de l'autre.
Oui, oui.
Vous, vous estimez votre patronne, même si de temps en temps, elle vous emmerde, non?
Oh. Il ne le dit pas.
Michel. Pour Michel qui porte tous les sacs.
Mais non, mais Ahmed va l'aider. Voilà.
J'ai qu'un rêve, c'est de dormir dans les coquelicots. Ah, c'est super, non?
Vous voulez être sur une hauteur ou le creux d'un vallon?
Ben, sur une hauteur, alors.
Eh ben, alors, c'est là, en haut.
Ah, moi, c'est mon rêve de petite fille, Béatrice.
Comment?
C'est mon rêve de petite fille qui se réalise.
Eh bien, voilà.
Voilà, c'était exactement ça.
Alors, ici, tout ça, ce ne sont que des coquelicots et de Californie. Et d'ailleurs, c'est une fleur très éphémère, parce qu'une fleur qui dure 36 heures. Et nous en avons semé 6 milliards 400 millions de graines.
Non.
Autant que d'habitants sur Terre.
Je ne sais pas si je serais capable d'être dans l'éphémère, dans le pour-moi, d'être, vous voyez, dans le temps présent.
Ah oui, dans le temps présent, oui, oui, absolument.
Oui.
Et ça, je vous dirais que je le suis chaque fois plus.
Oui.
Et je l'ai un petit peu appris également en Orient, que ce soit au Japon ou même dans des pays extrêmement évanescents comme les îles du Pacifique,
mm-hmm.
où ils n'ont pas de mémoire.
Mm-hmm. Mais vous, qui êtes une femme de l'aristocratie, avec justement la mémoire de votre famille,
ah oui,
c'est ça qui est, c'est ah ça oui. qui est intéressant chez vous.
Ah oui, non, je suis.
Oh mon Michel.
J'ai une revendication.
Tu en peux plus, hein.
Non, être exempté de footing demain matin.
Oh, on va être heureux, hein. J'adore ça, l'odeur du duvet. Alors, je marche comme Sarkozy. C'est dans le désert du Maroc que vous avez appris à cultiver toutes ces fleurs? Comment ça vous...
Oui, je ne suis pas né dans le désert, je suis né dans la moyenne Atlas. Pas loin de Marrakech, on avait des bons jardins aussi. Ils font travailler la terre à l'âge de 10 ans, on sait quand même comment que ça se présente la terre. Parce qu'ici, j'ai commencé ici, et quand même, que faut pas qu'il oublie madame que j'ai tout fait ça avec mes bras.
Madame, oui, mais enfin, on avait quand même un petit peu d'outils. Non, puisque
j'ai pas d'outils, j'ai commencé par mes outils personnels, propres. Et moi, je l'aime bien travailler avec mes outils personnels, je l'aime pas travailler avec les outils des autres.
Enfin, quand même,
on est professionnel, on ne peut pas travailler avec des
outils personnels. On avait des tracteurs, on a
acheté... On ne peut pas faire un jardin avec des gros tracteurs, il faut faire beaucoup avec la finition à la main.
Voilà.
C'est ça le métier jardinage. Et si on n'est pas des entreprises qui cassent tout, ils partent.
Allez-y, ne perdez pas de temps. Il n'y a rien.
Merci beaucoup pour votre accueil.
Merci beaucoup. Au revoir, ma chère Monique.
Merci Béatrice, merci pour tout, merci pour cette nuit inoubliable.
Voilà, et en plus, ce lever de soleil avec ses rayons. Enfin,
c'était superbe.
C'était superbe, à bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
C'est pas là ?
Non, c'est là-bas. On part ce soir en vacances ou quoi?
Non. Il y a un peu de boulot.
Non, mais tu nous audites. Vous nous éditez.
Ah, je sais pas, on verra à la fin de la réunion.
Bon.
On est d'accord. C'est typiquement le plan d'une thèse, quoi. Et que, d'ailleurs, même dans la... Bon, Annie reviendra, mais même dans la présentation des choses, vous, avec le petit 1, le petit A, le petit B, le petit C, vous êtes très démonstratif, universitaire, etc. Et donc ça, disons, c'est une remarque générale qui est vraie pour tout le livre, qui est entre la démonstration concrète et puis l'analyse sociologique qui, parfois, même assez souvent, se fait pesante, quoi. Bon. Ils sont accablés.
Non.
Ça pourrait être pire.
Il y a d'autres endroits aussi. C'est toujours dans les parties jargonnantes et que Patrick disait un peu abstraites ou un peu Google-off au début.
Parce que je suis poli.
Moi, j'ai eu une impression de sentiments, de ressentis, de choses très vagues et très... Et pas du tout concrète en fait, et pas du tout. Et ça, et voilà, ça c'est gênant aussi. Il faut arriver, à gommer ça.
D'accord. Il ne doit pas y avoir de passage qui ne soit pas vivant avec l'enquête. Voilà. Avec
il y a aussi, alors à l'inverse, il y a ces passages-là d'un côté, puis il y a les passages très militants de l'autre qu'il faut aussi enlever.
Alors, ensuite, il y a un dernier problème.
Oui.
Et je ne quitterai pas ce lieu tant qu'il ne sera pas réglé, le titre et le sous-titre. Les ghettos du Gotha, ça on est OK. Mais il y a un problème pour le sous-titre.
Un problème.
Alors,
comment?
Alors, vous, c'était...
Et nous, on
souhaiterait qu'il n'y ait pas le mot riche. On vous fait comme contre-proposition. Aristocrates et grands bourgeois défendent leurs espaces.
Bon, vous perdez 5000 lecteurs d'un coup. Là.
Je suis d'accord avec Patrick. Et autrement, oui, je voulais en venir au contraste, simplement. Hein. Donc, je ne sais plus, on avait fait une option ou pas d'option?
Qu'est-ce que ça veut dire, option?
C'est pas grave.
Ça veut dire qu'on a la possibilité de le mettre à la poubelle si ça ne nous plaît pas. Quoi.
Les ghettos du Gotha, où nous plongeons dans l'aristocratie et la bourgeoisie française. On en parle dans un instant avec Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Alors, les ghettos, si on essaye un tout petit peu de regarder quels sont les signes extérieurs de richesse, mais ils sont extérieurs, mais en même temps, on essaye de ne pas trop les voir. Il y a d'abord, il faut commencer un peu par là, la surface habitable, du reste. C'est de dire, il y a une surface minimum.
Avoir du pouvoir, avoir de l'argent, c'est avoir du pouvoir sur l'espace. Et l'une des manières de manifester ce pouvoir, c'est d'avoir de l'espace chez soi. Nous avons fait des entretiens dans des appartements de 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, 500 mètres carrés. 700
mètres carrés.
Bon, c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et donc, c'est l'une des manifestations de la position sociale.
Les ghettos du Gotha, quelque part, est-ce qu'il y a un repli sur soi? Est-ce qu'il y a une... On parle des luttes des classes. Est-ce qu'ils se sentent un petit peu menacés?
Alors, moi, je ne dirais pas du tout que c'est un repli ni une menace. Là, les sociologues parlent de ségrégation pour montrer qu'il y a une grande distance physique qui sépare les riches des pauvres, pour dire les choses très rapidement. Mais nous, avec Michel, on préfère parler d'agrégation pour montrer que c'est un processus positif de recherche de son semblable. Et je dirais même d'amour de son semblable.
Sous direction la Bourse de Paris, on retrouve Céline Pantex en direct d'investir.fr. Céline à CAC 40 qui dépasse les 5700 points. Passionnant.
Ils ont peur de quoi aujourd'hui, ces riches, ils ont peur de quoi? Ils n'ont peur de rien. Je dirais qu'ils sont plutôt conquérants. Aujourd'hui, par exemple, j'ai parlé de Neuilly tout à l'heure. C'est le maire Nicolas Sarkozy qui a été maire de Neuilly pendant 20 ans, qui est aujourd'hui au sommet de l'État. Les autres classes, nous, les classes intellectuelles, on est totalement désaffiliés, on a des identités pas très marquées. La classe ouvrière a perdu tout son patrimoine industriel, syndical et politique. Donc je dirais que si aujourd'hui il y a une classe mobilisée, c'est bien celle dont nous avons parlé.
Qu'est-ce que les invitations ?
Ah, c'est toi ?
Ah, c'est moi.
Ah oui. Qu'est-ce que c'est l'exposition ? C'est joli.
On va vous donner un badge qui vous permet d'accéder aux toilettes et à la buvette.
Ça, c'est le plus important. Je vais vous le dire, Michel Paz. Les toilettes et la buvette, c'est ça ?
Eh oui.
Ouais.
C'est une œuvre collective.
Oui. Ah, ben c'est nous deux.
Vous deux. Vous avez réussi à pénétrer sans problème. Vous savez que vous les pénétriez pour une dénonciation.
Non, c'est pas non. Ça d'abord.
Non, mais vos noms,
ils commencent à être connus. Oui, ils ont vu ça, par exemple, à la fin. On dit que c'est la classe la plus organisée, la plus mobilisée, etc. Oui. Ça les gêne pas. Il est question de la défense du littoral comment ils profitent de la défense du littoral parce qu'ils ont leur villa en bord de mer, etc. Bon, ça, d'accord, nous, on protège le territoire national aussi.
Oui, nos maisons ne dénaturent pas le paysage, compte tenu que ce sont des manoirs. Si c'était des baraques en bois, des pauvres sans-abri, ce serait différent.
On a besoin de savoir les classes sociales. Ça existe vraiment et ça existe encore. Et qui sait comment on fait. Et Sarkozy, où il est, la haute bourgeoisie. Parce que c'est pour nous, hein, on a besoin d'avoir des éclaircissements, des repères.
Nous n'avons pas inventé les classes sociales, mais nous avons inventé la lutte des classes.
J'ai un jeune collègue qui s'appelle De Valois.
Oui.
Tu es fait lire aussi vos bouquins. Et c'est un jeune issu de l'aristocratie, mais un peu déclassé, mais c'est un régal. Donc je pense que je vais lui offrir.
Ah, mais ça sera un beau cadeau.
Et je l'ai entendu dire, mais écoute, ça nous donne des deux. Pour moi, j'estime que ça nous donne des devoirs d'abord. Avant tout, ça ne nous donne pas de privilèges. On doit être. Alors, il dit finalement, après, j'en ai discuté avec lui, et je trouve qu'il parlait comme les communistes. Quand on est communiste, on disait toujours qu'il faut être meilleur. Et lui, il disait comme nous.
C'est votre vrai nom, Pinson ?
Oui. Ah bon ? Vous n'êtes pas un juif ?
Pardon, vous n'êtes pas juif ?
Non.
Non, vous ne me payez pas. Oui, non, parce qu'il y a un cousin à moi qui est juif. Et juif comme ma mère, il a pris un autre nom, le nom d'un oiseau moineau. Mais parce que j'ai cru que c'était un pseudonyme.
Non, ça n'a rien à voir. D'abord, moi c'est avec un CC bille. Alors que l'oiseau, c'est un S.
Bon, salut les passants.
Merci beaucoup. Hein. Merci. Au revoir. Merci. C'est pas grave. Je me souviens pas du tout que c'était comme ça. Je me souvenais de quelque chose de beaucoup plus majestueux. Ah oui, non, ça y est, c'est là.
Mais
je suis contente.
Bon, vous êtes pourtant, me semble-t-il, passé par l'endroit le moins noble du jour. Pourquoi vous a-t-on fait cette mauvaise surprise ?
Non, je pense que c'est moi qui me suis trompée. On est rentré par la porte de service.
Oui, je vous ai fait, mais vous étiez une si jolie vision que vous ne pouvez qu'améliorer les lieux.
C'est vraiment formidable. Et puis, on avait donc invité tous nos interviewés, mais il n'y en a qu'un certain nombre qui étaient disponibles aujourd'hui. Alors, c'est pas grave, parce que quelquefois, on approfondit plus la discussion.
En petit comité.
En petit comité, c'est voilà. Donc, c'est...
Alors j'ai lu votre livre avec intérêt. Je vous remercie, vous avez répondu. Hein.
Ah, bah, c'était une belle lettre.
Non.
On va en parler tout à l'heure, c'était bien.
Bah, j'ai trouvé que l'article du Monde n'était pas mauvais sur le sujet.
Parce qu'on a été taxé de simpliste à la fin.
Disons que l'explication était un peu simpliste.
Bon, tu vois.
Quoi voilà.
Non, mais.
Pour être très franc.
Mais voilà, très bien.
Très bien.
très très bien. On va vous Béatrice. Merci pour le livre et pour, qui est très beau, très intéressant. Je l'ai lu le premier jour de A à Z.
Vous allez bien?
Très bien.
Bah, merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous. Vous vous connaissez, Olivier Drouin, Denis de Kergoré?
Non.
Non.
Mais, je suis ravi que vous vous présentiez. Je fais semblant de supporter. Je viendrai que je te montre la maison.
Les ghettos du Gotha.
C'est un titre d'éditeur. C'est vrai, c'est l'éditeur.
Je veux dire, les gens du Gotha n'ont pas dû être contents parce que pour peu qu'ils soient antisémites, en plus, n'ont pas envie qu'on parle de leur ghetto. Hein.
Alors que ça fait quand même, je ne sais pas combien de décennies qu'ils étudient le truc, ils ont peut-être le droit de dire, sans être violemment marxiste, les ghettos du Gotha, ça va. Je veux dire, on pourrait être autrement méchant.
Vous déniez le droit à l'idéalisme. Il y a des gens qui peuvent se battre pour des causes qui ne concernent pas leur intérêt particulier.
Ce sont vos intérêts que vous défendez, mais en défendant vos intérêts, vous défendez l'intérêt général parce que, justement, les espaces que vous occupez sont les espaces qui ont le plus de valeur naturelle, culturelle, etc.
Les châteaux, les choses qui comptent, que vous ne pouvez pas garder pour vous, individu ou au sein d'une famille X, reste quand même dans le milieu. Et c'est pour ça...
Non, la société n'est plus fermée, malheureusement.
Elle n'est plus vraie.
Parce qu'il y a
la mondialisation, voilà. Parce que c'est vrai que, quelque part, je vois très bien que je suis le dernier des Mohicans, mais en ouvrant cela un peu à la terre entière, eh ben, les gens, ils me disent merci. Ils me disent merci parce qu'en fait, j'ai pas fait une œuvre purement égoïste. En plus, j'en ai rien à foutre, de château, quelque part. Enfin, maintenant, oui. Si vous voulez me le prendre, je me battrai. Mais ce qui, moi, le valorise à mes yeux, c'est que c'est justement une rareté dont peut bénéficier plein de gens.
La TSR se glisse dans les coulisses des scènes romandes. Des talents se dévoilent.
Venez voir, venez.
Des symphonies naissent.
La petite note, on n'entend pas.
Des masques s'animent.
Et finalement, la grosse moi.
Les langues se délient. Et la musique flotte dans l'air. Au cœur de leur passion, les artistes livrent leur univers. Nous avons tant de plaisir à partager.
Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous passez une agréable nuit, une très belle soirée en notre compagnie sur la TSR. On regarde ensemble votre programme de demain. Du côté de TSR1, à 20h05, à bon entendeur, se posera les bonnes questions. La crise financière, les clients lésés, comment faire valoir vos droits, ce sera dès 20h05 au programme. À 20h45 de la comédie avec le film www.mèrethérèse.com. Et oui, une bonne sœur qui mène l'enquête, c'est assez fun et ce sera dès 20h45. À partir de 22h20, le débat continue avec Infrarouge. Assurance maladie, les primes, la guerre des primes continue. Le débat retrouvé dès demain, dès 22h10. Du côté de TSR2, eh bien, à partir de 20h45, vous pourrez suivre le film Love Actually. Et oui, l'amour existe sous différentes formes avec Hugh Grant dès demain, Love Actually au programme. Et dès 23h10, ce sera votre magazine de santé. Mais pour l'heure, je vous propose tout de suite de retrouver Géopolitis. Très bonne soirée à vous tous, une excellente nuit et on se retrouve très bientôt.
Bienvenue sur Géopolitis. La Géorgie veut adhérer à l'OTAN, la Russie s'y oppose, on est en pleine crise. L'OTAN se bat en Afghanistan, les talibans résistent et on est en pleine guerre. Question, les soldats de l'OTAN sont-ils en train de devenir les gendarmes du monde? Avec la guerre en Géorgie, l'OTAN traverse sa plus sérieuse crise avec Moscou depuis la fin de la guerre froide. L'OTAN avait parfaitement maîtrisé cette époque de la guerre froide. Elle a ensuite fait la guerre en ex-Yougoslavie, elle est présente en force actuellement en Afghanistan et la voilà prise dans le piège du Caucase. Géopolitis décrypte le devenir de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Depuis la chute du communisme, la Russie a beaucoup cédé. Elle n'avait d'ailleurs pas le choix. À présent, Moscou se rebiffe et estime que la Russie a parfaitement le droit de revendiquer son influence dans l'espace post-soviétique, comme par exemple le Caucase. C'est dire si l'OTAN se retrouve en première ligne, alors même que l'organisation basée à Bruxelles traverse une crise sans précédent. L'OTAN, c'est l'alliance de 26 pays, 12 à l'origine, plus du double 50 ans plus tard, avec déjà 9 pays qui appartenaient au bloc soviétique. L'OTAN, c'est une présence militaire qui ne cesse de s'accroître, notamment vers l'Est. Ce sont des milliers de soldats en Méditerranée, au Kosovo et bien sûr en Afghanistan, avec près de 50 000 hommes. L'OTAN, c'est avant tout une alliance avec un engagement lourd de conséquences. Les pays signataires conviennent qu'une attaque armée contre l'un ou plusieurs d'entre eux sera considérée comme une attaque dirigée contre tous. Un engagement dont chaque mot compte lorsque l'on parle de l'Afghanistan ou du Caucase.
Detection North Sarajevo, low speed. Surveillance controller, start Triton controller. Your mission will be identification.
Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La fin de la Deuxième Guerre mondiale, une Europe ravagée, des pays déstructurés, des populations désorientées, et déjà la peur diffuse que tout cela recommence. Il y a les vétos répétés de l'Union soviétique à l'ONU, puis survient le blocus de Berlin. Face à la menace communiste, les Européens veulent assurer leur sécurité. Ils ont besoin de l'aide des Américains, lesquels acceptent à condition que cela soit conforme à la Charte des Nations Unies. Le 4 avril 1949, on signe le traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN est né. L'article le plus important, l'article 5, prévoit que chacun des membres et solidaire des autres en cas d'agression. Pour la première fois, les Américains rompent leur isolement et entrent dans une alliance permanente avec le continent européen. Cela va durer jusqu'à la chute du mur de Berlin, jusqu'à la fin du communisme et jusqu'à la disparition du grand ennemi naturel de l'OTAN que constituait le pacte de Varsovie. La fin de la guerre froide date de 1989. Un an plus tard, c'est l'ex-Allemagne de l'Est qui se retrouve intégrée à l'OTAN. C'est la réunification de l'Allemagne. Les Russes ne voient pas cela d'un bon œil, mais on leur promet qu'on ne stationnera pas d'armes nucléaires et de troupes étrangères à leur porte. 9 ans plus tard, à la grande colère de Moscou, l'OTAN intègre d'un coup la Hongrie, la Pologne et la République tchèque. 80% des Polonais, c'est à souligner, sont en faveur d'une telle intégration. Et voilà qu'en 2004, les trois pays baltes, donc des anciennes républiques soviétiques, rejoignent l'Alliance, ainsi que d'autres ex-pays satellites de l'URSS, comme la Bulgarie et la Roumanie.
Avec 26 membres, l'OTAN entend continuer son processus d'élargissement. Deux autres pays dont on parle beaucoup ces temps-ci frappent aujourd'hui à la porte de l'Alliance, l'Ukraine, après sa révolution orange, et la Géorgie, à l'issue de sa révolution dite des roses. Ce n'est pas un premier pas vers l'adhésion, mais c'est déjà une réelle coopération entre, d'une part, les pays membres de l'OTAN et, d'autre part, ceux des pays européens qui ne sont pas membres de l'Alliance et ceux des pays de l'ex-bloc soviétique qui préparent leur adhésion. Par exemple, le Kazakhstan, le Turkménistan, mais aussi des pays européens tels que l'Autriche, la Finlande, l'Irlande, la Suède et la Suisse. À signaler que ce partenariat se fait à la carte. C'est-à-dire que chacun définit avec l'OTAN ce qu'il entend par partenariat. En somme, ce n'est guère contraignant. Il n'y a que deux pays européens qui n'en font pas partie, Chypre et Malte. Il reste le cas d'un grand pays qui se retrouve aujourd'hui face à l'OTAN et dont tout le monde semble oublier qu'il est inclus dans ce partenariat pour la paix, c'est la Russie. Pendant 40 ans, nous avons assisté à une guerre froide, tellement froide que, dissuasion oblige, il n'y a pas eu un seul coup de feu ou un seul char qui aurait franchi la ligne rouge. Depuis, face au désordre mondial, le mot d'ordre, c'est la paix et le maintien de la paix à tout prix, même s'il faut pour cela déclencher des opérations militaires. En 1992, c'est l'opération aéronavale de l'OTAN pour contrôler l'embargo de l'ONU sur les armes imposées à la Yougoslavie. Dès 1995, c'est une campagne de bombardement en Bosnie-Herzégovine, puis une opération humanitaire en Albanie, suivie d'une campagne aérienne pendant la guerre du Kosovo. C'était l'opération Allied Forces, avec déjà des dizaines de milliers d'hommes. Par la suite, et cela nous amène en ce début de siècle, ce sera l'Afghanistan, avec la force d'assistance et de sécurité, 50 000 hommes, la toute première intervention de l'OTAN en dehors du cadre euro-atlantique. L'actuel secrétaire général de l'OTAN, le Hollandais Jaap de Hoop Scheffer, est formel, soyons clairs, a-t-il dit récemment, il ne saurait être question pour l'OTAN de jouer aux gendarmes du monde. L'Alliance n'en a ni les moyens, ni la volonté politique. Il n'en reste pas moins que l'OTAN, pour maintenir la paix, doit faire la guerre, comme en Afghanistan. Le temps est maintenant venu pour l'Alliance de redéfinir sa spécificité et surtout sa stratégie, en premier lieu face à ses membres, face à l'ONU, à laquelle elle n'entend pas se substituer, même si parfois dans l'action, on a du mal à faire la différence entre la mission d'un soldat de l'OTAN et celle d'un casque bleu onusien. En second lieu, face à cette Union européenne qui elle-même cherche à se doter d'un système de défense militaire actif et crédible. Du reste, dans plusieurs situations de crise, l'Union européenne et l'OTAN sont déployées ensemble sur le terrain. Le tout est de savoir si les forces de l'une et de l'autre sont rivales ou complémentaires.
Ce qu'on peut ajouter, c'est que tout récemment, les États-Unis, par la voix du vice-président Dick Cheney, ont réaffirmé que, à leur avis, il n'y avait aucun doute, l'Ukraine et la Géorgie appartiendraient bientôt à l'OTAN. L'invité de Géopolitis, Fred Tanner, directeur du Centre de politique de sécurité, ici à Genève. Alors, est-ce que c'est le cas de le dire? Les soldats de l'OTAN sont devenus les gendarmes du monde? C'est votre avis ou pas?
Non, c'est pas mon avis. Je pense que l'OTAN n'est pas le gendarme du monde. C'est plutôt la tâche de l'ONU. Mais l'OTAN, en effet, a des capacités d'agir de la part de l'ONU sur des missions, dans les missions d'opération maintien de la paix, stabilisation, etc.
Alors, la légitimité, le côté officiel et le côté décisif, c'est l'ONU. Et puis l'OTAN est le bras armé. Voilà. Mais quand même, on voit l'OTAN intervenir sans le feu vert des Nations Unies.
Oui, alors l'OTAN est une organisation avec des muscles qui peut être utilisée aussi pour les intérêts nationaux des pays membres. Et on a vu ça au cas de Kosovo, où l'OTAN a quand même fait un coup de force en Serbie, Kosovo, sans autorisation du Conseil de sécurité.
Là, c'est clairement les États-Unis qui décidaient du rôle de l'OTAN.
Les États-Unis étaient certainement là, in the lead, donc qui a mené cette campagne.
Et on a le sentiment que les Américains sont encore là en ce qui concerne le caucus, c'est-à-dire que ce sont eux qui décident, presque pour et au nom des autres membres de l'OTAN.
Je ne suis pas sûr. Je pense que ces dernières années, on a vu une certaine retraite des États-Unis dans l'OTAN. C'est un petit peu un vide, je voudrais dire, de leadership des Américains, qui est dû à la politique de Bush après le septembre, 11 septembre. Et je pense là, maintenant, on espère, avec la nouvelle présidence, il y a plus à nouveau un engagement multilatéral de Washington, y compris évidemment aussi l'OTAN.
Alors, l'OTAN se positionne par rapport à l'ONU, mais aussi par rapport à l'Union européenne. Il n'y a pas encore de défense européenne digne de ce nom. Au fond, ça arrange les Américains dans le cadre de l'OTAN. Car encore une fois, ce sont eux qui décident des choses.
Je ne sais pas si ça les arrange. Je pense qu'ils ont l'intérêt que l'Europe a une défense effective et cohérente. Il ne faut pas oublier que 21 pays membres de l'Union sont aussi des pays membres de l'OTAN. Donc là, il y a beaucoup d'intérêts communs. Et je pense aussi un signe positif que la France maintenant annoncé de joindre donc à l'organisation militaire de l'OTAN. Donc je crois là maintenant, les États-Unis ont certainement pas beaucoup des objections.
Alors, comment se fait-il que l'élargissement pose tant de problèmes? Ça n'est pas nouveau. On savait qu'il y avait des pays candidats, puis tout d'un coup, c'est la crise, Moscou se rebiffe. Comment expliquez-vous que tout d'un coup, ça ne se passe pas du tout comme prévu?
Oui, comme vous l'avez montré déjà dans votre reportage, c'est un processus historique avec la fin de la guerre froide. Il y a eu des nouvelles démocraties en Europe centrale, orientale. Ces démocraties voulaient joindre l'OTAN. L'OTAN qui a toujours eu une politique de la porte ouverte. Et donc, avec les deux vagues d'élargissement, on est arrivé tout proche à la frontière russe. Et là, évidemment, avec la Russie qui, dans les années 90, était en déclin, en recul, tout à coup, on a quand même réagi d'une manière assez ferme.
Oui, parce que quand il y a eu la Pologne, hein, ou les Pays-Baltes, elle n'a pas dit grand-chose, et puis là, maintenant, elle dit « ça suffit ». Alors, est-ce qu'on va vers une crise, je dirais, de type militaire, avec des interventions, peut-être, des soldats de l'OTAN, en plus, en Géorgie, à votre avis?
Non, je pense pas. Je crois que la guerre froide est passée, avec toutes ces notions de la confrontation des blocs, la dissuasion nucléaire, etc. J'espère que ces notions vont rester dans l'histoire. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est un engagement de la Russie et un recul. Il faut peut-être attendre un petit peu, recul pour mieux sauter plus tard, peut-être attendre avec l'adhésion. Donc, il ne faut pas brûler les étapes.
Alors, pendant 40 ans, c'était la guerre froide, il y avait une doctrine qui était assez simple, les bons contre les méchants, les défenseurs de la liberté contre les oppresseurs. Nouvelle stratégie en 1999, est-ce que là, presque 60 ans après le début de l'OTAN, il n'est pas temps d'avoir une stratégie qui soit complètement adaptée à ces situations de crise?
Absolument. Il faut une nouvelle stratégie. Maintenant, c'est, comme vous dites, c'est déjà 10 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ces 10 ans.
Plus que pendant 50 ans.
Absolument, beaucoup plus. Il y a la menace asymétrique, l'attaque contre les États-Unis en septembre 2001. Il y a la montée de la Russie à nouveau. Il y a les défis globaux, la prolifération nucléaire. Donc tout développement qu'il faut prendre en compte et il faut à nouveau créer une solidarité de l'Alliance Atlantique, étant donné qu'on vit maintenant dans un monde globalisé.
Alors solidarité, bon, tel n'est pas le cas actuellement. En tout cas, il y a division, des mentalités tout à fait différentes, en particulier à propos du Caucase. À force de s'élargir, est-ce que l'OTAN perd un petit peu de son âme et de son objectif?
Oui, je crois dans l'absence vraiment d'une menace très claire et nette, c'est presque normal qu'il y a des intérêts sur-régionaux. Il faut, si vous prenez la Turquie, il y a d'autres intérêts comme par exemple les Pays-Baltes.
Oui.
Et donc là, maintenant, aujourd'hui, il y a vraiment problème qu'on peut avoir toujours un consensus, une solidarité parmi tous les pays membres de l'OTAN.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent actuellement le plus grave problème de l'OTAN, c'est pas tellement le Caucase, mais c'est la guerre en Afghanistan? Peut-être au Pakistan.
Oui, absolument. Je crois que le problème, c'est vraiment pour moi que l'OTAN commence à être perçu, les forces de l'OTAN en Afghanistan, comme une force d'occupation. Et ça, si ça, c'est vraiment le cas, il y a un problème que l'OTAN pourrait échouer dans cette région, qui aurait aussi des implications, pas seulement pour toute la région, mais aussi pour l'organisation de l'Alliance Atlantique en tant que telle.
Fred Tanner, merci de toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes ici à Genève, le directeur du Centre de politique de sécurité. Merci.
Merci beaucoup.
Il y a donc un traité de l'Atlantique Nord, il y a une organisation, mais à l'évidence, il y a plusieurs mentalités. L'OTAN n'est pas un bloc homogène. D'un côté, il y a des pays européens qui ont largement bénéficié du parapluie de l'Alliance, qui n'entendent surtout pas envenimer la relation de l'Europe avec la Russie et qui comprennent qu'à force de demander des concessions à la Russie, ce sont autant d'humiliations qu'on lui impose. Et puis de l'autre, il y a des pays qui aujourd'hui ont besoin du bouclier de l'OTAN pour au moins deux raisons. Un, vivre dans un ensemble démocratique et deux, se protéger de l'éventualité d'un retour de la domination russe dans la région. En somme, quand la Géorgie et l'Ukraine disent « on veut vous rejoindre », la Pologne et les pays baltes ajoutent « mais oui, venez », Washington lance « vous êtes les bienvenus » et voilà que l'Allemagne et la France répondent « non, pas vous, c'est beaucoup trop tôt ». En somme, et c'est là son dilemme, à vouloir se déployer à l'extérieur, l'OTAN risque surtout de se diviser à l'intérieur. Et sur la page web de Géopolitis, vos questions sur le rôle de l'OTAN, sa stratégie et les réponses de notre invité. Le meilleur du web avec les séquences vidéo de l'OTAN au cœur des conflits. Vu du passé avec des images historiques sur le parcours de l'organisation. Et bien sûr, les sites et ouvrages à disposition sur toutes ces questions. Vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.
Que nous mangeons, mais nous ne savons pas toujours ce que nous mangeons. Depuis une dizaine d'années, une graisse bon marché a envahi très discrètement notre alimentation. Il s'agit de la graisse de palme. La culture du palmier à huile est un désastre écologique et social et son omniprésence dans nos assiettes est également un vrai problème de santé publique. Autre sujet, les antidépresseurs. Ils ne sont pas plus efficaces que le placebo dans les dépressions légères et moyennes. Qu'est-ce que ces révélations ont changé pour ceux qui les prescrivent et pour les patients ? Réponse mercredi prochain dans 36.9.
Le cours du jour avec EOS et la Fondation européenne FEDRE. Quels sont les objectifs du protocole de Kyoto ? Comment fonctionne le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre et en particulier les émissions de CO2 ? Ralph Baumann nous dit pourquoi ce système est essentiel dans une lutte globale.
Le protocole de Kyoto, c'est en fait un engagement des pays industriels de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 5,2%. Malheureusement, avec la non-ratification des États-Unis, se constitue maintenant à 4,1%. L'effet que les États-Unis n'ont pas signé le protocole de Kyoto fait que finalement, on va atteindre l'objectif qui était fixé par Kyoto. Ça, d'une manière, c'est une bonne nouvelle. Au même moment, il faut savoir que les pays qui se sont engagés ne couvrent que 30% des émissions de gaz à effet de serre. Mais ça veut aussi dire que les 70% ne sont pas couverts. En 2007, les émissions globales sont augmentées de 800 millions de tonnes. Ça, c'est ce qui correspond à en fait, 16 fois les émissions annuelles de la Suisse. La Chine et l'Inde ils font partie du protocole, mais ils n'ont pas un engagement de réduction des émissions. Et c'est là où arrivent les fameux certificats de Kyoto. Ces certificats sont liés à la compensation. Maintenant, pourquoi la compensation ? Prenons l'exemple d'EOS qui veut construire une centrale à gaz dans le Valais. Elle est construite avec la meilleure technologie. On ne peut pas faire mieux. Mais bien sûr, comme ça fonctionne avec du gaz, il y aura des émissions. Il faudra trouver un moyen de compenser ces émissions de cette installation. Mais dans cette installation, peut faire ça à travers des projets en Suisse ou à travers des projets à l'étranger, comme par exemple la Chine ou l'Amérique latine. Cette compensation qui a lieu dans un pays en voie de développement est créditée dans le compte du producteur thermique, par exemple en Suisse. Si nous voulons stabiliser le climat, il faudra réduire les émissions de 80% jusqu'en d'ici 2050. Ça, c'est un énorme chiffre.